journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs, l'émission. Vous avez la parole, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon début de semaine aujourd'hui dans le JDA. Retour sur le 17e sommet de la francophonie. Après une parenthèse de 4 ans avec Michaël Jean, l'élection de la rwandaise Louise Mushikiwabo remet l'OIF entre les mains d'une africaine. Alors qu'attendez-vous de ce mandat? Louise Mushikiwabo peut-elle rénover la francophonie? Et quelles seront les conséquences sur les relations diplomatiques entre Paris et Kigali? Pour intervenir, nous faire part de vos avis et de vos commentaires, composez dans le 01 55 07 58 00 depuis la France et depuis partout ailleurs dans le monde. N'oubliez pas bien sûr l'indicatif 00 33 1 55 07 58 00. Mais avant de parler du sujet du jour, on se tourne vers le répondeur d'Africa numéro 1 pour écouter quelques-uns des messages que vous nous avez laissés.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, bonjour. Non, je voulais juste intervenir par rapport à l'éliminatoire à Cannes 2019 concernant le RD Congo. Le problème de la défaite ou des défaites, ça a commencé depuis Tunisie, si vous avez remarqué que les choses n'allaient pas. C'est pas le problème n'est pas Ibengué du tout, c'est pas Ibengué. C'est même pas le joueur. Le problème, c'est les forces vives. J'ai dit, le véritable Dieu du Congo ne veut plus de ceux qui dirigent. Je suis pas contre le président Kabila, hein, parce que je l'ai toujours soutenu. Moi, je peux dire que je suis pro-Kabila. Mais là, ce que je veux dire, tout simplement, que le problème du Congo, c'est son entourage. Cet homme, il a grandi à l'extérieur toute sa jeunesse. Et quand il vient ici, c'est-à-dire il avait une autre mentalité, à l'Est, Tanzanie et autres. Ici, il va être entouré par des gens comme les Mende et les autres qui ont goûté au pouvoir de Mobutu. C'est eux qui détruisent ce pays. Je vous remercie beaucoup.
Chers amis du JDA, bonjour. Une fois de plus, on a encore entendu les Congolais de la RDC qui ont été expulsés de l'Angola. Que c'est malheureux, que c'est horrible. Bon, c'est pas bien de faire ça entre nous, Africains. Bon, déjà là, on est en train de s'assurer ou de se tenir contre les expulsions des Africains ou la non-réception des Africains sur les territoires européens. Bon. Mais chez nous, c'est le même rythme, c'est le même début qui se poursuit. Mais dans un autre sens, je voulais aussi dire que quand nous déplaçons dans les pays des autres, nous devons essayer de nous conformer à leurs pratiques, à leur manière de vivre. Parce que chez nous, il y a un proverbe qui dit quand vous arrivez chez les amis, on danse sur un seul pied, vous aussi essayez de danser sur un seul pied. Donc, du coup, quand on arrive chez les gens, ils font essayer de se conformer et de vivre de leur mentalité, quoi, de vivre leur pratique. Non plus encourager les mauvaises pratiques. Quoi. Bon, allez, salut à tous.
Bonjour, Madame Hartmann. Bonjour, les amis des JDA. Bonjour, le peuple africain et tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Congolais, Congolaises, Africains, Africaines. L'heure est grave, l'heure, elle est déjà venue. Ça a déjà commencé, vous avez entendu et écouté l'interview de la nouvelle secrétaire générale de l'OIF, Madame Mushikiwabo, qui a déclaré l'alternance en Afrique, c'est pas bon, mais rester au pouvoir pendant 30 ans, 40 ans, c'est bien, mais c'est maintenant à nous les Africains, comme la France nous a imposé. La France nous a imposé encore Mushikiwabo, qui est la seule ministre des Affaires étrangères de Paul Kagame, le grand dictateur, qui détruit la République démocratique du Congo, qui pille les minerais de la République démocratique du Congo pour construire le Rwanda.
Oui, JDA, moi je voulais dire simplement aux amis de Ouattara, est-ce que ça c'est la démocratie? Ici en France, quand tu vas voter là, on te demande, même moi ils m'ont déjà demandé, on te demande si tu veux rester pour le dépouillement. Et c'est après, quand ils finissent de compter tout, et que c'est après le comptage et tout, c'est le résultat qu'on envoie à la centrale. Mais si l'on ne prend pas les bureaux de vote pour aller, n'est-ce pas, à la CUE pour compter là-bas, non. Au plateau, après le vote, les citoyens ont voulu rester pour assister au dépouillement. Ils ont dit, oui, ça t'est fait dans une heure, dans deux heures, dans trois heures, ils sont bakayoko, hein. Jusqu'à une heure tardive, ils ont dit, c'est pas grave, on va le faire demain. C'est-à-dire aujourd'hui dimanche, parce que le vote c'était hier. Demain arrivé, dit aujourd'hui dimanche arrivé, les gens n'ont pas dormi, ils ont veillé pour voir, pour compter leur voix, leur bulletin et tout. Aujourd'hui dimanche, ils prennent, on leur dit, venons, ils disent, non, on va aller à la CIE, au place, à Cocody. On va amener les bulletins là-bas, enfin les urnes là-bas, et c'est là-bas c'était le dépouillement. Depuis qu'on a vu ça?
Oui, bonjour, chers amis de GDA. Aujourd'hui, ce matin, j'ai écouté le reportage ici à Abidjan, et c'est pas la dame qui a été interrogée. Elle dit que globalement, les élections se sont bien passées en Côte d'Ivoire, mais passé, il y a eu deux morts. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle attend par bien passé. Il y a eu deux morts pour elle, c'est rien. Deux personnes qui sont mortes, c'est rien. Il faut 3000 morts pour savoir que les élections se sont mal passées. On n'organise pas les élections pour pouvoir tuer des personnes. Donc ça s'est très mal passé. Oui, pour moi, ça s'est très mal passé.
Bonjour Africa numéro 1 et bonjour à tous les Camerounais. Il me semble que M. Paul Biya va encore prendre 7 ans de notre vie. Il en a déjà pris 36, il en prendra encore 7, ça va faire au total 43 ans de notre vie. Et parmi les complices qui ont voté Paul Biya, il y a les jeunes diplômés qui gagnent leur pain sur une moto en faisant du Benzikin. Parmi les complices, il y a des personnes qui ont vendu le pays parce qu'on leur a donné du pain et de la sardine. Il y a des gens qui tendent la main aux frères et sœurs qui sont dans la diaspora pour qu'on leur envoie de l'argent parce qu'ils n'en peuvent plus. Eh bien, toutes ces personnes-là, il faudrait qu'ils assument leur choix. Chacun doit assumer son choix. Restez dans vos coins, ne demandez plus de l'argent aux gens qui sont dans la diaspora. Vous, qui avez voté Paul Biya parce qu'on vous a donné un pagne, vous, votre vie ne vaut plus rien. Si vous acceptez que ce monsieur vous prenne encore 7 ans de votre vie, c'est que vous n'en êtes pas conscient. Je pense bien qu'il est temps que chacun assume sa responsabilité. Trop, c'est trop. Ceux qui tendent la main à leurs frères et sœurs, je vous dis bien encore, restez là-bas, ne demandez plus rien aux gens, parce que votre vie ne vaut plus rien. Merci et bonne journée. Trop, c'est trop.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 01 55 07 58 00. Aujourd'hui dans le JDA, le retour de l'Afrique à la tête de la francophonie après une parenthèse de 4 ans avec la Canadienne Michaëlle Jean. L'élection de la Rwandaise Louise Mushikiwabo remet l'OIF entre les mains du continent. Alors qu'attendez-vous de son mandat? Louise Mushikiwabo peut-elle rénover la francophonie? Quelles seront les conséquences notamment sur les relations diplomatique entre Paris et Kigali. La parole est à vous. On commence avec Thierno depuis Conakry. Bonjour Thierno.
Bonjour Madame Stéphanie et bonjour à l'ensemble des auditeurs et des auditrices d'Afrique numéro 1.
Bonjour Thierno. Alors Emmanuel Macron disait il y a quelques semaines que le cœur du français battait quelque part du côté du bassin du Congo. C'est loin la Guinée du bassin du Congo. Cela dit, vous êtes un locuteur francophone africain en Guinée. Que pensez-vous du fait que ce soit une Africaine qui soit à la tête de l'OIF, de la francophonie?
Oui, bon, je suis vraiment surpris. D'une part, un peu très heureux de voir une femme africaine accéder à tel poste. C'est très important, nous devons tous apprécier. Mais ce qui me révolte et m'énerve un peu, c'est voir, comment dirais-je, qu'elle est du Rwanda, un pays qui a vraiment s'écarté elle-même de la francophonie. Ils ont carrément changé leur langue, leur diplomatie, ils ont orienté vers les autres pays non francophones. Je ne comprends pas pourquoi les grandes nations francophones, je parle du Canada, la France et les autres États africains, ont choisi une Rwandaise en détriment de Michel Dian, parce que je ne vois pas de quoi elle est capable de faire mieux que Michel Dian. Je ne crois pas qu'elle fera mieux, parce que non seulement elle vient d'un pays que tout le monde connaît, c'est un pays vraiment qui vit sous dictature, là où toutes les institutions sont téléguidées par l'exécutif, parce que on ne peut pas parler de la démocratie et la séparation du pouvoir au Rwanda. Monsieur Paul Kagame est là depuis 1994. Oui, on peut parler qu'il a fait beaucoup pour le développement et autres, mais où on a oublié le respect des droits humains, les valeurs de la démocratie et autres. Pourquoi un pays francophone, comme je dis dans mon commentaire, à la tête de l'institution la plus importante de la francophonie? C'est vraiment quelque chose que beaucoup de comment dirais-je, de auditeurs et des observateurs qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi elle a eu soutien de Canada, pourquoi Canada s'est désolidarisé de Mme Michel Dian, et pourquoi la France qui n'avait pas récemment de relations diplomatiques vraiment soudées avec le Rwanda. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est un peu flou, nous ne voyons pas vraiment les intérêts qui lient la France et le Rwanda au jour d'aujourd'hui, parce que le Rwanda a vraiment mis la langue française à côté, parce que l'institution, c'est pour valoriser la langue française, pour initier, rassembler, fédérer l'ensemble des pays francophones. Étant donné que le Rwanda n'a plus de cœur, n'a plus de souci de rassembler la francophonie, c'est plutôt, ils ont déjà pris la position.
Du coup, Kierno, vous craignez pour le français alors?
Oui, oui, tout à fait. Vous voyez, merci. L'Ouganda n'a pas de l'amour de la langue française. Rwanda, plutôt, je disais. Le président qui est là, celui qui a tout changé.
On va faire une précision, Kierno, au sujet de la langue et du français au Rwanda. Kierno, on va faire quand même une précision. Je crois que moi-même, j'ai commis l'erreur dans la semaine précédente. Le Rwanda, en fait, a juste remplacé le français par l'anglais en tant que langue obligatoire à l'école. Voilà, le français fait toujours partie de l'univers plurilinguiste au Rwanda, où on parle principalement aussi Kinya au Rwanda. Merci beaucoup, Kierno, de votre commentaire. Kierno, qui est surpris de voir un pays comme le Rwanda arriver à la tête de la francophonie. Louise Mushikiwabo a déclaré, je compte rendre à la francophonie son plein rôle comme instance de dialogue et de négociation. Elle a aussi précisé que elle inscrivait le français dans un monde plurilingue aux côtés d'autres langues. Et quant à l'utilisation finalement comme instrument de négociation diplomatique par la France de l'OIF, c'est vrai que Emmanuel Macron a déclaré ceci, dit « Je me réjouis de cette nomination parce qu'elle correspond au visage de la francophonie aujourd'hui. La francophonie a plusieurs chantiers devant elle, celui de la jeunesse et de sa langue. C'est pour ça que je voulais, a-t-il dit, que ce soit un pays africain qui puisse présider. » Merci Thierno. On va aller écouter Monsieur Armand Kipré. Bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Merci de m'avoir passé, après 4 ans d'absence, la parole.
Vous êtes ici chez vous, Armand.
Ouais. Et félicitations pour tout ce que tu fais pour l'écoute des Africains et d'ailleurs. Merci. Ma question concerne effectivement la francophonie. Je voulais savoir quelles sont les conditions pour être secrétaire général de la francophonie.
Bonne question.
Une élection ou une nomination?
Emmanuel Macron a parlé de nomination, mais en fait c'est une élection par consensus, il faut que tout le monde soit d'accord.
Oui, consensus, je pense qu'au 18e à ce siècle, ces temps-ci, on ne doit plus quand même nommer les gens. Il faut même, dans les petits recoins de la France ou en Afrique, on doit voter aujourd'hui pour savoir qui est capable de diriger une institution comme celle-là. Donc je voulais savoir si c'est une élection ou une nomination, parce que c'est biaisé. Deuxième question, je voulais aussi savoir le bilan concret ou le résultat de la francophonie ces 8 dernières années en Afrique. Le bilan, qu'est-ce qu'ils ont fait en Afrique, puisqu'on parle de la francophonie, on parle de la langue, qu'ont-ils fait en Afrique ces 8 dernières années, voire le précédent mandat.
Je pense que vous avez vous-même la question, mon cher Armand. La réponse, pardon.
Je n'ai pas encore la réponse, puisque je suis sur Internet, je fouille, mais je ne pense pas qu'à Bobam, ils ont construit une bibliothèque. Pas du tout. Donc, nous, on veut savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est politique ou bien c'est quoi? La francophonie, c'est une langue. Donc, qu'ils nous disent exactement, qu'ils nous fassent le bilan exact, parce que toute chose, il y a un bilan. Chaque année finie, on doit nous dresser le bilan. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, c'est ça mes deux questions. Je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions, mon cher Armand Kipré, de questions extrêmement intéressantes. Je n'ai pas malheureusement de réponse à vous y apporter, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je vous souhaite une excellente journée, mon cher Armand. On va écouter Ibrahim. Ibrahim, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, bonjour les auditeurs.
Bonjour Ibrahim. Vous avez la réponse finalement pour Armand, puisque vous dites que la francophonie est devenue politique. C'est vrai qu'on parle beaucoup de défense du français, il faut que ce soit un Africain à la tête de la francophonie, puisque le plus grand nombre de locuteurs francophones se trouvent en Afrique. Finalement, il y a beaucoup de questions de diplomatie. C'est à
vous. Non, faut pas se gratter les cheveux pour trouver la réponse à cette question. Ben rien. C'est que c'est juste un prolongement pour moi du système France-Afrique. Vous voyez, c'est un peu des objectifs qui sont affichés, mais en réalité, qui sont des objectifs juste pour tromper l'œil, quoi. Voilà, parce que si vous voyez, on a choisi, on a mis en avant que c'est une femme, c'est une Africaine. Moi, tout ça, ça m'importe peu, parce que je me dis, en réalité, c'est pour la poursuite des objectifs politiques menés par la France qui a conduit à ces choix-là. Que ce soit une femme venant du Rwanda, Paul Kagame qui n'arrête pas de taper sur la France, Paul Kagame qui n'arrête pas de dénoncer l'attitude de la France pendant les génocides, et la France a vraiment du mal à se défendre. Et là, pour se blanchir, il va utiliser l'institution dont la vocation initiale est la promotion de la langue française à des objectifs purement politiques. Voilà. En gros, finalement, de plus en plus, on découvre que la francophonie ne sert vraiment pas grand-chose. En tout cas, pour l'intérêt...
La francophonie n'a-t-elle toujours pas été politique? On se souvient, Ibrahim, il y a quelques années, c'est pas si loin d'ailleurs, c'était sous François Hollande, François Hollande avait proposé le secrétaire général de l'OIF à Monsieur Compaoré comme porte de sortie.
Oui, bien sûr. Mais en fait, si vous voulez, moi je sais que depuis le début, effectivement, ils essayaient quand même de se rapprocher au mieux aux objectifs assignés, aux missions assignées. Mais là, c'est devenu très très visible, on s'en cache plus. Donc tout le monde sait aujourd'hui que la francophonie, ça sert vraiment à des intérêts politiques, essentiellement politiques de la France. Et c'est dommage. Et il est temps. Et c'est comme si finalement il est mieux de taper sur la France pour se faire peut-être un peu
respecter.
Respecter, avoir une place. Donc Kagame a raison. Donc tapons si c'est là que ça peut nous amener des intérêts, du respect du moins.
C'est
voilà ce que je pensais de cette institution qui est devenue machin, comme disait Général De Gaulle.
Il parlait de l'ONU, je pense, quand il parle de machin, mais je pense que ça marche aussi pour l'OIF, Ibrahim.
Oui, tout à fait. Je compare le machin de l'ONU de Gaulle à l'OIF, qui est devenu aussi machin de nous, notre R.
C'est très clair. Merci Ibrahim de votre contribution à ce débat. Dans un instant, on écoutera Patrick Boyau, juriste bien connu des auditeurs d'Africa numéro 1, puisqu'on se souvient au début de l'émission, Thierno a souligné le caractère peut-être dictatorial du Rwanda. Il faut savoir que Louise Mushikiwabo a déclaré que la plupart des Rwandais étaient satisfaits de leur modèle démocratique. On se souvient que Paul Kagame était la dernière fois réélu avec 98% des suffrages et que la constitution a été modifiée pour lui permettre de rester en poste jusqu'en 2034. Mais selon Emmanuel Macron, hein, qui a eu ces mots durant une interview, il a dit le Rwanda est en train de faire une transition politique, en tout cas je l'espère et je pense, c'est Emmanuel Macron qui parle, que cette nomination oblige en quelque sorte ainsi hein, pour le président français un Rwanda consolidé sur la scène internationale est aussi un Rwanda qui peut se démocratiser. Diomo de Beng, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour Diomo de Beng.
Oui, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à toi de me donner la parole encore une fois de plus, Stéphanie. Moi, je dirais, je vais toujours dans le contresens. Hein, vous savez, il n'y a jamais de politique parfaite. Hein. Mais je t'ai dit, pour répondre à mon grand frère Armand, que je connais très bien, je lui dirais que la francophonie, c'est la continuité de la politique française dans cette ancienne colonie. Ça, il faudrait qu'il le sache. Parce qu'aujourd'hui...
Et pourtant, il y a le Canada. Le Canada avait poussé il y a 4 ans pour que Michael Jean soit élu. Pensez-vous que les Canadiens soient d'accord avec ce que vous venez de dire?
Ben oui, je suis d'accord avec ça, franchement. Je suis d'accord parce que le Canada, c'est un pays... ils sont bilingues, le Canada. Donc, il faut savoir que les pays qui imposent la francophonie, c'est que la France. C'est que la France et la France. Mais moi, je dirais que c'est une très bonne politique aujourd'hui pour Emmanuel Macron, parce qu'aujourd'hui, la langue la plus parlée au monde, je crois, si c'est pas l'arabe ou l'anglais, ça doit la France doit venir en cinquième position.
Mais le président de la République
française, je vais parler d'Emmanuel Macron, il a pour objet de détendre la superficie de la France au-delà de sa vraie superficie. C'est pourquoi on nomme même... Sinon, il n'y a pas de raison que ce soit une Rwandaise qui soit quand même la secrétaire générale de l'OIF. Parce que le Rwanda qui parle anglais aujourd'hui, parce qu'ils ont dit bon voilà, on prend le français à la place de l'anglais, il faut leur faire la part belle, ou parce que Paul Kagame est en train de sauter par-ci par-là, il faut faire ceci, il faut faire cela, soi-disant qu'il est en train de rentrer démocratiquement dans le monde démocratique. Moi je crois que tout ça c'est du crève-l'œil en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt, il faut le dire, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et que nous sommes d'accord en tant que pays francophone, je parle de la Côte d'Ivoire, nous sommes d'accord que le français soit une langue plus parlée au monde, on est d'accord. Mais à donner la francophonie au Rwanda, qui n'est pas un pays...
C'est finalement, Diomo, si je comprends bien, vous rejoignez ce que disait notre ami Thierno en début d'émission, en disant finalement, moi j'ai peur pour la valorisation hein, de la langue française, voilà, et qui devrait être la première mission hein, de cet objet... qui est la francophonie. Merci, Diomo de Beng. Alors, le français hein, est la 8e langue la plus parlée au monde après le mandarin, l'hindi, l'anglais, l'espagnol, l'arabe, le malo-indonésien et le portugais. Voilà, il fallait le dire. Avant d'écouter Patrick Mboyo qui avait une réponse, je pense, à quelques questions d'Armand, quelques messages sur la page Facebook. Chimanjinda Ilunga nous dit ceci. La France a réussi à imposer son choix à ses superviseurs qui gèrent l'Afrique et qui la respectent à la lettre. Le Rwanda finira par payer le prix du génocide. On ne peut pas s'en passer. Voilà, l'arrivée de cette dame signe la fin des objectifs primaires de la francophonie. Osana, depuis le Tchad, dit bonjour, la francophonie aujourd'hui est inefficace. Elle se prononce sur certaines situations alors que mon souhait est que cette institution soit active. Sinon, beaucoup de choses restent à faire. Le Rwanda doit aussi améliorer son mode de gouvernance. Somme Edribris nous dit « La diffusion du français sur notre continent nuit terriblement aux langues locales. La langue française porte une charge coloniale très forte. » C'est ce qu'un écrivain, hein, Kateb Yassine, appelait le butin de guerre. « La langue française porte une charge coloniale très forte, nous dit Somme Edribris, à telle enseigne que nos parents étaient complexés de nous enseigner nos langues maternelles. Il a fallu que l'on devienne grand pour mesurer l'impact négatif de cette pratique. Il faut seulement permettre à nos États d'enseigner nos langues dans nos écoles, sinon ce sont nos cultures. » qui vont disparaître à long terme. Ce n'est pas en français que nous allons tout de même organiser nos fêtes traditionnelles en pays baoulé, Adjoukrou, Bété. Bref, la France, à travers le cas français, poursuit un objectif d'aliénation culturelle qu'il appelle assimilation, nous dit Sobre Ediri Brice. Et des cassédards, cette question à base de quoi? Car c'est un pays anglophone, réagit-il. Patrick Mboyo, bonjour.
Bonjour Stéphanie Hartmann, bonjour aux auditeurs d'Africa Numéro 1.
Bonjour Patrick, vous avez une voix beaucoup plus douce que la mienne. Alors vous vouliez répondre, je crois, peut-être sur le mode de nomination de la secrétaire générale de la francophonie?
Oui, vous savez, Stéphanie Hartmann, pardon, je suis un fidèle auditeur de l'émission Journal des auditeurs et de l'Africa numéro 1 de manière générale. Et je ne pouvais pas rester un petit peu jouer selfish, comme on dit en anglais, en voyant les interrogations, les questionnements de notre auditeur sur le fonctionnement de la francophonie en ce qui concerne la désignation de la secrétaire générale, mais aussi l'action au cours de ces 10 dernières années. Donc le peu de connaissances que je pourrais partager avec lui et l'ensemble des auditeurs d'Africa numéro 1 en semaine me pousse à lui dire simplement que il y a deux modes de désignation du secrétaire général. Le mode privilégié, c'est le consensus. En principe, les États négocient, discutent, parce que tous les quatre ans, il y a un sommet qui doit permettre de désigner le nouveau secrétaire général ou la nouvelle secrétaire générale de la francophonie. C'est un sommet des chefs d'État. C'est pas un sommet de ministres, c'est un sommet des chefs d'État. Ce sont ces chefs d'État qui discutent entre eux en amont du choix qu'ils peuvent apporter. Pour Boutros Ghali et Abdou Diouf, il y a toujours eu consensus dès le départ qu'il fallait avoir ces deux personnalités éminentes à la tête de l'OIF. Sauf qu'en 2014, on a eu une difficulté. Pour la première fois, les États n'étaient pas d'accord. Parce qu'il y a eu un candidat.
Il y avait un candidat africain, mais beaucoup ont succombé au charme de Michel Jean. Patrick Bouillot, vous m'épargnerez l'historique, s'il vous plaît. Et la deuxième réponse, vous lui apportez. Parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, il reste seulement quelques minutes. Sur le bilan, vous avez quelque chose à donner au bilan pour Armand ?
Oui, pour le bilan de l'OIF en Afrique, c'est un bilan essentiellement culturel et au plan de l'éducation, parce que la coopération que permet l'OIF s'est faite dans la suite de ce qu'a été anciennement l'Agence internationale de la francophonie, qui était portée essentiellement sur une coopération au plan de l'éducation, mais aussi au plan de la culture. Donc le bilan de la francophonie en Afrique reste, hélas, dans des domaines qui sont très peu porteurs et très peu visibles, le domaine de l'éducation et de la science. Mais si je peux seulement précis. Je vous le disais tantôt que la désignation par consensus est le principe et la désignation par élection qui a été faite pour Michel Jean parce qu'on a failli, on a pratiquement procédé à une élection pour se mettre d'accord sur le nom de Michel Jean, c'est l'exception. Donc voilà les c'est mécanismes clair. Qui sont prévus dans le cadre de la charte de l'OIF, mais des informations sont disponibles sur le site de l'Organisation internationale de la francophonie. J'invite l'auditeur à pouvoir le consulter.
Merci mon cher Patrick de nous avoir éclairé. Bonne journée à vous. Il nous reste quelques minutes encore pour parler de cette francophonie et de l'arrivée de Louise Mouchikiwabo à la tête de la francophonie. On parlait tout à l'heure, on s'interrogeait sur les relations entre Paris et Kigali. On a appris ce week-end, un peu après la nomination de Louise Mouchikiwabo, que le parquet de Paris avait demandé un non-lieu dans l'enquête contre l'attentat qui avait visé l'ancien président du Rwanda, Juvénal Habyarimana, attentat considéré comme déclencheur du génocide. Fédé, bonjour.
Oui, bonjour Madame Hartmann, bonjour les auditeurs de l'Africa numéro 1.
Bonjour Fédé.
Pour moi, vous faites, moi je ne suis pas politicien, moi je suis musicien. Mais les gens ne voient pas clair. La plaque tournante menant à l'Afrique noire, c'est le Rwanda.
De l'Afrique subsaharienne.
Voilà. Tous les présidents, ils ont bouffé. Pourquoi pas Macron ? Il veut manger, parce que si vous regardez bien...
Est-ce que le Rwanda a beaucoup d'argent à donner ?
Le Rwanda, parce qu'il est entre des pieds à la République démocratique du Congo.
Il y a un peu de cobalt. Alors, vous pensez, Fédé, que finalement, c'est une bonne affaire, c'est ce qu'on lisait un peu partout, c'est une bonne affaire pour le Rwanda qui devient limite un pays incontournable sur la scène internationale. On rappelle quand même que Paul Kagame est le président d'exercice de l'Union africaine.
Non, madame, s'il vous plaît, c'est pas un pays contournable. Non, c'est un pays qui cause des désordres en Afrique. Alors, si vous regardez bien, la population de la RDC, c'est presque 85 millions d'habitants. C'est un pays francophone. Pourquoi vous allez partir donner un dirigeant qui parle anglais
ça, à Paul Kagame ne parle pas du tout français, ça c'est bien vrai, oui. Voilà. Il a bien eu du mal, il a essayé, mais...
Le Rwandais parle l'anglais, tout le monde le sait. Le plus grand pays francophone en Afrique, c'est la RDC.
Vous auriez voulu une secrétaire générale issue de la RDC ? Vous pensez à quelqu'un ?
Il y en a plein, madame. On veut donner
Nobel au docteur Mukwege. Peut-être un excellent secrétaire de la francophonie.
Il y a plein au pays. Il y a plein de intellectuels. C'est ça. C'est ce qui nous intrigue, nous. Vous prenez un pays anglophone.
Est-ce que vous, Fédé, vous entendez quand les gens, quand les autres auditeurs parlaient finalement de négociations politiques, hein, c'est en vue de se rabibocher, de se réconcilier, hein, avec le Rwanda que Macron a peut-être proposé aussi ce poste de la francophonie.
Madame, je vous dirais non et non et je le souligne en rouge, non. Macron sait très très bien que Rwanda avec la RDC ça marche pas. Mais si aujourd'hui il y a par exemple une conférence où on dit qu'il y a fait de quoi la francophonie, est-ce que les Congolais vont venir? Alors que le Congo c'est le plus grand pays francophone en Afrique.
Macron l'a dit, hein. L'épicentre de la francophonie se trouvait quelque part dans le bassin du Congo.
Voilà, il sait ce qu'il est en train de faire. Parce que si vous regardez bien, tout maintenant se passe.
Alors Fédé, du coup, si je vais un peu plus loin, et on va terminer là-dessus, du coup, est-ce que vous voyez ce geste, ce soutien d'Emmanuel Macron à Louise Mushikiwabo comme un signe envers la RDC et envers les Congolais?
C'est vraiment un signe déplacé, madame. Il est contre les Congolais.
Ou un pied de nez, si je peux dire, voilà. Quelque chose
voilà,
comme ça.
Souligne.
D'accord, oui. C'est très clair. Merci beaucoup, Fédé, d'avoir conclu cette émission. Il y a Violette qui nous disait, c'est de la manipulation interne, on se vend nous-mêmes. Touré voulait nous dire que la francophonie doit défendre les intérêts de la France, ça ne doit pas être un prétexte. Ah, malheureusement, la francophonie, c'est pas... que la France, 80 États font partie de la francophonie. D'ailleurs, la Gambie a rejoint l'OIF en tant que membre observateur suite à ce 17e sommet. Vous l'entendez, la petite musique, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de votre participation. N'hésitez pas à continuer le débat, à continuer la discussion sur les réseaux sociaux, notamment sur notre page Facebook, facebook.com/journaldesauditeurs ou encore sur Twitter, @JAuditeur, on se donne rendez-vous demain, mardi, pour une nouvelle édition du Journal des Auditeurs. Demain, nous parlerons des résultats des élections locales en Côte d'Ivoire. N'hésitez pas à vous inscrire aussi en laissant un message sur le répondeur au 01 55 07 58 05, 01 55 07 58 05 ou par mail jda@africa1.com. En attendant de vous retrouver demain, prenez grand soin de vous à l'écoute d'Africa numéro 1, la seule, l'unique, la vraie radio africaine. À demain.